pour qu'il aille lui chercher la Sainte Eucharistie. Nous pouvons penser à ces saints qui n'ont vécu que de la Sainte Eucharistie par un privilège de Dieu, comme Marthe Robin. Et nous devons demander à Dieu, nous qui n'avons pas ce privilège, eh bien, au moins, nous aussi, d'avoir faim de lui, d'avoir soif de lui. Notre vie, c'est le Christ. Si seulement nous comprenions la valeur d'une seule sainte communion. Le Saint Curé d'Ars disait, si l'on pouvait comprendre tous les biens renfermés dans la sainte communion, il n'en faudrait pas davantage pour contenter le cœur de l'homme. L'avare ne courrait plus après ses trésors, l'ambitieux après la gloire, chacun quitterait la terre en secouant la poussière et s'envolerait vers le ciel. Tout nous semblerait fade sur terre. Et bien voilà que cette sainte communion que nous sommes appelés à recevoir au moins une fois l'an, c'est ce que l'on appelle faire ses Pâques, et bien Dieu veut nous l'accorder quotidiennement. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Quand nous serons au ciel un jour et que nous verrons les choses sous l'angle de Dieu, quand nous verrons notre vie sous l'angle divin, eh bien très certainement nous regretterons de ne pas avoir communié plus souvent. Et ne pensons-nous pas que nous regretterons d'être passés si souvent à côté de la source de la vie. Alors parfois, c'est sûr, des personnes disent « Oui, mais nous n'en sommes pas dignes. » Et c'est vrai que nous ne serons jamais dignes de recevoir de notre cœur notre Seigneur, mais le bon Dieu ne se donne pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire vivre de sa vie. Nous en avons besoin. Alors bien sûr, il faut être en état de grâce, il faut avoir le désir de recevoir Dieu, mais ces conditions étant remplies, allons à la source de vie. Dans le très beau livre de Mgr Schneider, cet évêque qui est venu à Versailles, je crois, à la réunion Réunicato, je ne sais plus quand, l'évêque du Kazakhstan, qui a grandi sous le communisme dans son pays, et un livre sur la Sainte Communion qui est paru d'abord aux éditions Vatican à Rome, la première édition italienne, et il raconte des histoires édifiantes à propos de la Sainte Communion, certaines au temps du communisme. Et il raconte en particulier l'histoire de cette dame qui n'avait pas pu voir de prêtre pendant 20 ans et qui priait tous les jours avec d'autres personnes d'ailleurs pour avoir un prêtre et pour pouvoir un jour communier. Et il a fallu qu'elle fasse 1000 kilomètres pour trouver un prêtre après 20 ans. Et elle a témoigné, quand je suis arrivé dans la maison du prêtre, je vis le tabernacle. Je ne pouvais imaginer que dans ma vie, je puisse voir encore une fois le tabernacle et le Seigneur Eucharistique. Je m'agenouillais et me mis à pleurer. Puis je m'approchais du tabernacle et je l'embrassais. Vous voyez, nous devons demander à Dieu la grâce de réaliser davantage ce qu'est le don de la Sainte Eucharistie. D'une manière plus générale, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Bon, je suis obligé d'aller un peu plus vite. D'une manière plus générale, cette demande veut aussi dire « Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. » Le pain quotidien au sens large. Et nous devons faire cette demande avec une grande confiance en Dieu. En Dieu qui nous redit, comme dans l'Évangile, « Ne vous tracassez pas de ce que vous pourrez manger pour vivre, ni de quoi vous habillerez votre corps. Est-ce que la vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Observez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, et n'entassent pas de provisions dans les greniers, et c'est votre Père du ciel qui les nourrit. N'auriez-vous pas plus de prix que les moineaux? D'ailleurs, lequel d'entre vous, à force de préoccupation, pourrait prolonger sa vie d'un seul instant? » Le grand Ramadan, qui s'est converti au catholicisme après la Seconde Guerre mondiale et qui a pris comme prénom de baptême Eugenio, Eugène, en hommage à ce qu'avait fait le pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était son prénom de baptême à lui aussi également. Le soir de son baptême, le soir du baptême de Eugenio Zoli, eh bien, il n'avait plus de quoi dîner. À l'âge de 65 ans, du fait de sa conversion, il se trouvait brutalement confronté à de graves problèmes matériels, à commencer par celui de la subsistance de sa famille. Jusqu'à présent, il avait vécu des honoraires de rabbin, et aujourd'hui, il n'avait plus rien. Et il accepte cette situation avec le plus grand détachement. Je demande l'eau du baptême et rien de plus. Je suis pauvre et je vivrai pauvre. J'ai confiance en la Providence. Donnez-nous aujourd'hui dans nos pains de chaque jour, c'est également s'abandonner à Dieu ou encore nous en remettre à Dieu en toutes choses, même dans les choses bonnes, qui nous paraissaient bonnes et que nous ne pouvons peut-être plus faire ou qui nous sont ôtées injustement. Et bien même là, nous devons nous en remettre à Dieu. Dieu m'avait donné, Dieu a repris, Dieu soit béni, ce sont les paroles de Job. Le cardinal Van Swan est un exemple dans ce domaine, dans l'abandon à la volonté de Dieu. En 1975, évêque depuis déjà 8 ans, il est nommé évêque coadjuteur de Saigon. Il a 47 ans. 4 mois plus tard, il est arrêté par les communistes. Il va passer 13 années en prison, dont 9 d'isolement total, avec seulement comme compagnon, si l'on peut dire, 2 gardiens. Sa foi est tellement contagieuse qu'au départ, on changeait ses gardiens tous les 15 jours pour qu'ils ne soient pas contaminés. Et puis au bout d'un certain temps, on ne lui changera plus ses gardiens pour que toute la police ne soit pas contaminée. Donc il est envoyé dans un camp de rééducation, dans les montagnes, et il écrira à plusieurs reprises, « Je suis tenté, tourmenté par le fait que j'ai 48 ans, l'âge de la maturité. J'ai travaillé 8 ans comme évêque, j'ai acquis une vaste expérience pastorale et me voilà isolé, inactif, séparé de mon peuple par 1700 km de distance. Une nuit, du plus profond de mon cœur, j'entends une voix qui me suggère « Pourquoi te tourmenter ? Tu dois faire la distinction entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que tu as accompli et que tu désires faire encore, visite pastorale, formation des séminaristes, des religieux, des religieuses, des laïcs, des jeunes, tout cela est œuvre excellente. Ce sont les œuvres de Dieu, mais elles ne sont pas Dieu. Si Dieu veut que tu abandonnes toutes ses œuvres, en les remettant entre ses mains, fais-le tout de suite et aie confiance en lui. Dieu le fera infiniment mieux que toi. Quant à lui, il confiera ses œuvres à d'autres qui sont infiniment plus compétents que toi. Tu as choisi Dieu seul et non ses œuvres. Et le cardinal dira, j'avais toujours appris à faire la volonté de Dieu, mais cette lumière me donne une nouvelle force qui change complètement ma façon de penser et qui m'aide à dépasser les moments quasi impossibles physiquement. Il faut laisser faire le Seigneur qui peut tout faire tourner pour le mieux. Il faut s'abandonner à Dieu. Donnez-nous, Seigneur, notre pain de chaque jour, celui que vous choisirez pour moi et pas plus. Nous devons laisser faire le Seigneur et avoir une confiance sans borne dans la divine providence. Semaine cardinal Vantuan, au moment où il fut arrêté, il lui revint à la mémoire les paroles d'un autre évêque qui avait passé 12 ans en prison et qui lui avait dit « J'ai passé la moitié de ma vie à attendre. » Et il ajouta « Tous les prisonniers attendent leur libération. » Eh bien, ce futur cardinal décida, lui au contraire, ce que nous pourrions décider nous aussi, c'est-à-dire de ne pas attendre des choses qui n'arriveront peut-être jamais, mais de vivre pleinement l'instant présent, le jour présent. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Nous ne demandons pas le pain du lendemain, nous n'en avons pas encore besoin, mais nous demandons le pain d'aujourd'hui, sachant que demain, le bon Dieu sera encore là. Et nous pouvons nous rappeler la vie bienheureuse de Saint Benoît-Joseph Cotolingo, mort en 1842, cité dans l'encyclique de Benoît XVI sur la Dieu et charité. Il fonda la petite maison de la divine providence à Turin, un hôpital pour les plus pauvres parmi les pauvres, qui commença par une chambre, puis deux, puis cinq. Et là, il recevait uniquement ceux que l'on ne recevait pas ailleurs. Et comme il fallait compter sur la Providence, la petite maison de la divine Providence, l'argent, il était interdit de demander de l'argent, et l'argent donné un jour devait être dépensé le jour même pour repartir à zéro le lendemain. Le pape IX, bienheureux Pie IX, appela cette maison la maison du miracle. Quand les autorités ordonnèrent aux chanoines de Cotolingo de fermer la première maison, qui était rempli de malades, par précaution devant une propagation d'une épidémie de choléra en 1831, il mit, le chanoine de Cotolingo à l'époque, le peu de possession qu'il avait sur le dos d'un âne, et accompagné de deux sœurs, il quitta la ville de Turin. Au lieu de se décourager, le prêtre disait « Les plantes, pour bien grandir, ont besoin d'être transplantées, et c'est cela qui va nous arriver. Nous les transplanterons, et de cette manière, elles croîtront encore davantage. » Et il va aller dans un autre quartier, donc, en banlieue de la ville, dans un quartier éloigné appelé Valdocco, où cet hôpital existe encore aujourd'hui. Il trouva une étable vide, à l'entrée duquel il plaça un écriteau avec les paroles de saint Paul « La charité du Christ nous presse ». Et cette étable va se transformer en maison, et en une autre maison, et en une autre maison encore. Et elle va devenir la petite maison de la vie de Providence. Une maison sera la maison de la foi, l'autre la maison de l'espérance, une troisième maison de Notre-Dame, une autre Bethléem, et il appellera l'ensemble de ces maisons « Mon arche de Noé ». Il recevait tout genre de malades incurables. Il avait une maison pour les attardés mentaux qu'il appelait « Mes chers amis ». Une autre maison consacrée aux sourds-muets, un pavillon pour les invalides, les orphelins, les abandonnés, ceux qui étaient rejetés des hôpitaux, étaient reçus sans aucune condition dans la petite maison de la Providence. Et il répétait à tous avec joie « Pour la divine Providence ». Pour la divine providence, ça coûte le même prix de nourrir 500 ou 5000. Les gens remarquaient que la petite maison de la divine providence était comme une pyramide à l'envers qui s'appuyait sur un unique point, la grande confiance en la bonté de Dieu. Un jour, il n'y avait plus rien. Plus les créanciers réclamaient leur argent. Tous lui dirent d'abandonner. Il fit le tour de ces différentes maisons, le tout était devenu un gigantesque hôpital, et là, il voit dans un coin un lit vide. Et il dit, Dieu nous a délaissés, nous sommes maudits, parce qu'il y a une place pour un pauvre là, et il n'y a pas de pauvre, allez vite chercher un pauvre. Et il expliquait à ses aides, les personnes peuvent nous faire faux bon, les gouvernements peuvent nous faire faux bon, mais Dieu ne nous lâchera jamais, pas même une fois. Et quand il notait que quelqu'un commençait à douter, il ajoutait « Dieu répond avec de l'aide ordinaire à ceux qui ont une confiance ordinaire. Mais il répond avec des aides extraordinaires à ceux qui ont une confiance extraordinaire. » Et effectivement, Dieu ne fait jamais défaut à Saint-Benoît Joseph Contolago, qui créa pour son œuvre 18, à lui seul, 18 congrégations religieuses. On peut songer également à cet épisode dans la vie de sainte Anne-Marie Taillis, morte en 1837, mère de famille, petite et humble servante de Rome. Elle avait guéri la reine d'Étrurie d'un mal cruel. Et celle-ci lui dit en ouvrant un tiroir plein d'or, « Prenez, prenez, Anna Mia. » Et la petite servante de répondre, « Oh non, madame, je sers un maître qui est bien plus riche que vous. Je me confie à lui et il pourvoit à tous mes besoins. » Alors bien sûr, parfois nous sommes un peu sceptiques, car dans notre prière nous avons demandé encore et nous n'avons rien reçu. On pensait avoir demandé ce qui appartenait au pain quotidien, pourtant, on pensait avoir demandé quelque chose de bon, et puis rien. Alors il faut nous dire que le bon Dieu va nous donner mieux. Il sait ce qui nous est profitable, même si ce mieux est une grosse croix complètement contraire à ce que nous demandions. Car il veut avant tout nous sanctifier, nous faire grandir, et pour cela, il faut nous émonder comme la vigne. Et s'il nous avait accordé ce que nous demandions, nous n'aurions pas eu peut-être une échelle aussi grande pour nous sanctifier. Et c'est tout le problème de la sagesse divine et de notre petite sagesse qui ne sont pas toujours d'accord. Et puis parfois le bon Dieu ne nous exauce pas tout de suite, car il veut voir notre persévérance, il veut voir combien notre foi est grande. Et j'ai prié pendant 5 ans et je n'ai rien eu. Eh bien, le bon Dieu attendait 6 ans. Et j'ai prié pendant 10 ans et je n'ai rien eu. Eh bien, il attendait 30 ans de prière, vous voyez. Comme Sainte Monique, qui pria 16 ans pour la conversion de son fils qui devint Saint Augustin. Nous arrivons à la demande du pardon des offenses, sur laquelle nous allons nous étendre. Tout d'abord, nous remarquons que Dieu, en nous faisant demander à notre Père du Ciel de nous pardonner nos offenses, en nous faisant dire cette prière du Notre Père si souvent, eh bien, notre Seigneur nous fait connaître une chose extrêmement importante, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de nous faire pardonner. Parfois, des gens se lamentent sur leur condition de pécheur. Eh bien, cela n'est pas une découverte. Nous sommes pécheurs. Celui qui se déclare sans péché, dit saint Jean, n'a pas la vérité en lui. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est parce que nous sommes pécheurs que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous sauver. Donc nous devons demander à Dieu d'ôter les péchés de notre âme. Et c'est bien ce qu'il veut faire. Mais il nous fait mettre ici une condition. Et cette condition, c'est que nous-mêmes, nous pardonnions à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est terrible, car en disant cette prière du Notre Père, nous fixons nous-mêmes la mesure du pardon de Dieu. Et cette mesure, c'est celle de notre propre pardon. Il est difficile, parfois très difficile, nous le savons tous, de pardonner, au moins à certains moments. C'est-à-dire d'oublier les injures, les offenses qui ont été commises contre nous ou contre ceux que nous aimons. Et pourtant, nous trouvons tout naturel que Dieu pardonne les nôtres. Une offense, qu'est-ce que c'est ? C'est une injustice. Quand quelqu'un nous a offensés, il a été injuste envers nous. C'est-à-dire qu'il a transgressé un de nos droits. Nous avons tout de même quelques petits droits. Et il y a certaines injustices qui font énormément souffrir. Et qui, humainement, laissent dans le cœur une grande rancune et une grande amertume. Rappelons-nous que le premier qui a vu ses droits bafoués, c'est le Christ. Il avait beaucoup plus de droits que nous et il les a abandonnés. Il a été traité moins bien qu'un esclave, il a été mis au rang des malfaiteurs, il a été condamné à mort. Non seulement cela, mais il a été traité comme le pire des condamnés à mort, car les deux autres condamnés avec lui n'ont pas été flagellés, n'ont pas été couronnés d'épines. La dernière cigarette qu'on accorde au condamné a été pour lui une éponge trempée dans du vinaigre. Et pourtant, que dira-t-il sur la croix, première des sept paroles du Christ en croix ? Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon des offenses est le signe indubitable, avec l'humilité, que nous sommes des vrais chrétiens et des bons chrétiens. C'est-à-dire les disciples du Christ qui pardonnent et nous demandent de pardonner 77 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Ce pardon, donc avec l'humilité, c'est le signe de notre christianisme. L'orgueilleux ne pardonne pas. Et il est facile de jouer aux simples, de nous déclarer à qui veut l'entendre comme n'ayant pas de qualité. Il est beaucoup plus difficile de laisser quelqu'un le dire de nous. Nous savons tous, Don de Mauléon disait, quand quelqu'un nous fait du mal ou dit du mal de nous, c'est un peu pour nous comme la morsure d'un serpent ou comme un poison qu'on nous donnerait à boire. Et si nous sommes capables de recevoir ces injures sans nous irriter ou nous enflammer, si nous restons calmes et que nous pardonnons, nous pouvons dire alors que nous avons bu ce poison et qu'il ne nous a pas fait de mal. Nous sommes alors vraiment les disciples du Christ dont il est dit dans l'Évangile. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. S'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera point de mal. Pendant la guerre, pendant la Révolution française et les guerres de Vendée, 1793, après la bataille de Chemillé, les Vendéens ont fait 400 prisonniers républicains et ils étaient excédés tant par leur lourde perte durant cette bataille, ils avaient perdu 600 des leurs, que par un massacre de la population civile par les républicains à Barré quelques jours auparavant, et ils décident alors de tuer ces 400 prisonniers bleus. Et leur chef d'élevé, deuxième généralissime de la grande armée catholique et royale, essaye de leur faire entendre raison et de s'interposer, mais il sent que la rancune est trop grande. Et il fait mettre à genoux ces hommes et leur dit, d'accord, mais avant de tuer les prisonniers, récitons un pater. Arrivé à la phrase, pardonnez-nous nos offenses, Delvé les arrête et leur dit, arrêtez, ne mentez pas à Dieu. Vous lui demandez de vous pardonner comme vous vous pardonnez aux autres, mais vous, pardonnez-vous aux autres. Et les prisonniers bleus furent épargnés. Nous ne devons pas mentir à Dieu. Dans la vie du père Franz Stock, qui est en procès de béatification, il y a également de très belles histoires de pardon. C'était un prêtre allemand qui fut l'aumônier de la prison de Fresnes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un prêtre catholique, donc hostile au régime nazi, extrêmement francophile, et il va assister dans son ministère, pendant son temps comme aumônier de la prison de Fresnes, à environ 1500 exécutions par les nazis pendant ces années de guerre. Et il va assister plus de 11 000 prisonniers. Il va mourir à 48 ans, en 1948, miné par tout ce qu'il avait vu pendant ces années. Alors au départ, il va être assez mal reçu des prisonniers français, qui comprendront cependant assez vite que c'était un saint prêtre qui n'hésitait pas, au risque de sa propre vie, de faire passer des messages, de faire passer des paquets pour leur famille, ou encore des lettres, c'était puni de mort. Et il va aider ce père, Franz Stock, de très nombreux condamnés à mort, à pardonner à leur bourreau. Dans un mot passé par l'un des condamnés à mort, par le biais de Bierstock, à sa mère, on lit « Je viens de voir le prêtre. Voyez-le après ma mort, il vous parlera de moi et de mes derniers instants. Dieu m'attend et me tend les bras, ce sera pour moi la vie éternelle et l'amour infini de Dieu. Pardonne de tout cœur à tous ceux qui sont responsables de ma mort. Dieu jugera. Je viens de communier à Dieu. » Et de très nombreux prisonniers mourront fusillés en ayant pardonné aux nazis grâce à ce prêtre qui sera lui-même, après la guerre, parce qu'allemand, prisonnier des Français et qui pardonnera lui aussi à son tour. Il y a un an, au mois de février, Le Figaro nous donnait un article que j'ai recopié en partie, je ne sais pas si je dirai tout, que je vais vous lire. Le temps d'un week-end, la cité mariale revit. Avec un air de printemps, les lourds volets mécaniques des magasins et hôtels se lèvent et réveillent cette ville endormie pour l'hiver. Plus de 20 000 pèlerins viennent y fêter, comme chaque 11 février, Notre-Dame de Lourdes, transformant le sanctuaire en une tour de Babel où dominent l'italien, l'anglais et l'espagnol. Mais cette année, une langue orientale s'est invitée, pratiquement sans aucun bruit. C'est l'araméen, la langue du Christ encore parlée par les chrétiens irakiens. 40 d'entre eux étaient présents au premier rang, 40 rescapés de l'attentat du 31 octobre 2010 de Bagdad, qui a provoqué 60 morts. Blessés, ils sont encore soignés en France et ont été invités par Mgr Perrier, archevêque de Tarbes et Lourdes, à venir prier près de la grotte. Pour eux, les volets mécaniques de leur commerce ou entreprise ne se rouvriront plus, le fracas des armes les a scellés à jamais et aucun n'envisage de rentrer. Comme Ramez, cet ingénieur électricien de 40 ans, il est à Lourdes avec son fils Bachar, 3 ans et demi, dont la jeune maman, hospitalisée à Paris, a non seulement perdu une jambe le jour de l'attentat, mais pourrait perdre l'autre. Il y a aussi cet homme d'une trentaine d'années, encore traumatisé, il refuse de parler, etc. Ce groupe est jeune, autour de 30 ans, mais deux femmes âgées et d'une dignité exceptionnelle se détachent. Elles sont en noir avec de grands visages de cire, pétris de souffrance. Le regard est incisif mais semble vidé par la perte d'un être cher. Ce sont les mamans des deux prêtres, 30 et 27 ans, etc. Je passe. Elle est sans voix. C'est une de leurs filles qui parle. Nous sommes venus prier Notre-Dame pour qu'elle protège les chrétiens. Nous ne pouvons pas prier pour le malheur des autres. Bien sûr que nous pardonnons. Notre Seigneur nous a demandé de pardonner. Et puis ça continue. On voit également le recteur de la paroisse qui était venu au pèlerinage de Chartres, Raphaël Cotani, également touché pendant l'attentat. Nous sommes dans un esprit chrétien, il n'y a pas de haine, mais on se demande toujours pourquoi cela. Il n'y a pas de haine. On peut penser à Tim Guénard, si vous avez lu son livre « Plus fort que la haine », qui a passé toute une partie de sa vie, qui a grandi avec une seule idée en tête, celle de retrouver son père et de le tuer. Et qui finalement se convertira et apprendra lui aussi le pardon. Vous voyez. Il y a une très belle prière de Saint-François d'Assise, qui commence, Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Vous voyez, c'est cela l'esprit chrétien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, nous ne devons pas être surpris qu'il le soit difficile de pardonner. Et que notre cœur en soit tout chaviré, même chez les saints, ce pardon est parfois très difficile. Comme nous le disions ce matin pour sainte Jeanne de Chantal, dont le mari fut tué par un accident de chasse. Il mit plusieurs jours à mourir, son mari. Son mari pardonna immédiatement à son malheureux meurtrier. Ce n'est pas lui qui a tiré, mais c'est la providence qui a tiré le coup, dira-t-il. Il invita sa femme et son fils à le faire, et il fit même inscrire ce pardon dans les registres de l'Église. Mais concrètement, sainte Jeanne de Chantal n'arrivait pas à pardonner. Il faudra cinq années, et la bonne influence de saint François de Sales avant qu'elle n'arrive à pardonner et qu'elle devienne elle-même la marraine d'un enfant de ce pauvre monsieur d'Anlezy qui était l'auteur de l'accident. Pardonner ne veut pas dire que nous trouvions que l'action commise envers nous ait été bonne ou ait été agréable. Pardonner veut dire souhaiter du bien, au moins du bien surnaturel à celui qui nous a offensé, et si Dieu veut, et fait l'occasion de se présenter, être prêt à lui accorder de vive voix notre pardon. Nous devons penser à l'exemple de sainte Maria Goretti. Parfois, des saints ont fait encore plus, ils arrivaient à considérer que ceux qui leur faisaient du tort étaient, en fait, leurs plus grands bienfaiteurs. Pourquoi ? Eh bien, à cause de cette demande du Pater, comment pardonnerions-nous si personne ne nous faisait du tort ? Et nous n'aurions alors rien à offrir au bon Dieu pour obtenir de lui notre pardon. Nous manquerions de la monnaie nécessaire pour obtenir le royaume des cieux. Ainsi, nos ennemis, pensait-il, sont en quelque sorte nos bienfaiteurs, puisqu'ils nous donnent de nous libérer de la lourde dette du péché. Il y a malgré tout quelque chose de surhumain dans le pardon. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le pardon des offenses et l'amour des ennemis est quelque chose de profondément chrétien. Le père Georg Hafner, béatifié le 15 mai dernier, mort dans un camp de concentration à Dachau, 42 ans. Il avait refusé de faire le salut nazi, donc il va le faire, le signaler comme ennemi du régime, et puis il va donner l'extrême onction à un membre du parti nazi qui était gravement malade. Et le père Hafner va lui donner l'extrême onction à une condition, c'est que celui-ci signe une déclaration d'invalidation de son second mariage contracté civilement. Et le dimanche, il suit les funérailles, il justifie ses funérailles chrétiennes par la lecture en chaire de cette déclaration. Il est aussitôt dénoncé, arrêté, incarcéré et envoyé sans jugement en décembre 1941 au bloc des prêtres du camp de concentration de Dachau où il y a eu plus de 2700 prêtres qui sont passés là-bas. Et il va mourir du fait des mauvais traitements et de la malnutrition. Et il pardonna lui aussi à ses bourreaux. Même dans les circonstances d'extrême souffrance, souligne le postulateur de sa cause, il n'accusa jamais ses bourreaux. Affirmant que dans la vie, on ne pouvait avoir d'ennemis. La seule chose qui comptait pour lui était d'être amour, révéler l'amour, donner de l'amour. Et nos ennemis, donc, sont aussi pour nous des puissants moyens de sanctification. Ils nous rappellent, nos ennemis, que la terre n'est pas le ciel. Ils nous apprennent, par leurs insultes et le mal qu'ils disent de nous, ils nous apprennent à être humbles. Et d'ailleurs, si nous ne répondons pas en général, notre réputation s'en trouvera fortifiée, mais il faut un contrôle de soi, un grand contrôle de soi. Et puis parfois, nos ennemis qui scrutent nos moindres défauts, eh bien finalement, sont des bons juges. Et il peut y avoir quelque part de vrai dans ce qu'ils disent, car ils nous observent tellement. Et ils nous rendent ainsi un service, et nous devrions nous demander si ce qu'ils disent de nous n'est pas un peu vrai. Saint Augustin raconte dans ses confessions que sa mère, Sainte Monique, quand elle était petite, on peut faire des bêtises en étant petit et devenir Sainte Monique, avait reçu de ses parents la charge d'aller chercher à la cave le vin. Et à chaque fois, elle en prenait un peu au passage, et petit à petit, elle en prit beaucoup. Sa servante était témoin de cela. Et un jour que la petite Monique se disputa avec sa servante, comme cela arrive, celle-ci la traita d'ivrogne. Et saint Augustin écrit, ce fut là comme un aiguillon qui la piqua si bien qu'elle aperçut son mal. Le condamna aussitôt et s'en corrigea. Tant il est vrai que si nos amis nous pervertissent par leur flatterie, nos ennemis souvent nous redressent par leurs reproches. Voyez, aussi curieux que cela puisse paraître, nos ennemis sont nos bienfaiteurs car ils nous obtiennent des mérites si nous réagissons bien. Notre Seigneur dit un jour à Saint-Angèle de Foligno, lorsque quelqu'un t'offensera en parole ou en acte, tu crieras que tu es indigne. Indigne d'une telle grâce. Alors certains diront, attention, si nous pardonnons toujours à nos ennemis, ce sera le règne des méchants et une grande injustice. Non, parce que pardonner ne veut pas dire forcément ne pas punir. Il y a aussi, et surtout dans le domaine public, dans le domaine de l'éducation aussi, une justice qui doit être réalisée. Et l'Église nous montre cela dans le sacrement de pénitence. Quand nous allons nous confesser, nous sommes pardonnés. Par contre, nous recevons également une pénitence qui est une punition. Et cette pénitence est juste et correspond au moyen qui nous est donné de nous amender et de satisfaire pour l'offense que nous avons commise. Le frère du ministre pakistanais, catholique Shabazz Bhatti, qui a été assassiné pour s'être opposé aux lois anti-blasphème, son frère Paul Bhatti a rencontré le 6 avril, il y a un an, Benoît XVI, lors de l'audience générale du mercredi, donc 6 avril 2011, deux mois après l'assassinat de son frère, dont il a pris la suite d'ailleurs dans le même ministère pour les minorités religieuses. Et à l'issue de cette rencontre avec Benoît XVI, il a déclaré « Je n'ai pas hésité à pardonner aux assassins. Pour un chrétien, c'est un passage nécessaire qui ne fait pas pour autant disparaître la douleur. Je demande en outre que justice soit faite. » Avant-dernière demande, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Donc nous avions déjà parlé les années précédentes des tentations, des épreuves que Dieu nous envoie parfois ou que Dieu permet. Dieu ne tente pas dans le sens qu'il ne nous propose pas un choix mauvais ou qu'il ne nous fait pas tomber. Au contraire, il nous propose toujours un choix bénéfique qui, s'il est accepté et bienvenu, sera pour notre sanctification. Un peu comme, c'est une histoire un peu curieuse, la vénérable Anne de Jésus, prieure du couvent de Carmélite de Salamanque, qui avait mis sur l'escalier du Carmel une marmite, très bien placée, pour incommoder et impatienter toutes les religieuses qui passaient. Elle y resta 3 jours sans que personne osât la déranger. Elle n'y demandait pourquoi elle était là. Enfin, un soir, à la récréation, une sœur n'en pouvant plus a dit « Que fait donc sur l'escalier une marmite à laquelle on se heurte chaque fois qu'on passe ?» Et la mère supérieure dira « Elle est là, cette marmite, pour montrer à tout le monde votre imperfection. Allez l'ôter et mettez-la à votre cou jusqu'à nouvel ordre. » Cette pauvre religieuse avait manqué l'occasion de sanctification qui lui était donnée. Eh bien, nous aussi, nous avons sur notre chemin des petites marmites sur lesquelles nous butons parfois. Eh bien, il faut essayer de ne pas nous plaindre, mais se servir de ces petites marmites pour nous perfectionner. Avec la grâce de Dieu, et c'est pourquoi nous lui demandons de ne pas succomber à la tentation, de ne pas nous plaindre, par exemple. La murmure, la plainte, c'est quelque chose que nous devons vraiment essayer d'éviter. Tout ce mauvais esprit n'est pas bon. Certaines épreuves parfois sont faciles à éviter et pourtant il faut discerner s'il ne nous est pas parfois avantageux de les subir. Saint Gérard Magella fut un jour accusé auprès de son supérieur, Saint Alphonse de Ligori, d'une faute scandaleuse auprès d'une jeune fille. L'auteur de cette calomnie était une personne à qui il avait rendu de grands services autrefois et qui le récompensait maintenant, ainsi qu'il arrive trop souvent, par une grande haine et une jalousie. Donc Saint Alphonse appelle Saint Gérard, ils étaient saints ni l'un ni l'autre à l'époque, et il lui lut à haute voix les lettres accusatrices. Rien n'était plus facile pour Saint Gérard Magella que de se justifier et de réduire à néant cette calomnie, mais dominant son émotion, il écouta sans broncher le réquisitoire qui lui était fait et ne répondit rien. Saint Alphonse prit son silence pour un aveu. Il retrancha à Saint Gérard la permission de communier et lui défendit de manière absolue de parler ou de communiquer avec les personnes du dehors. Et Gérard Magella baissa la tête, accepta la punition sans maudire. Même si l'interdiction de communion fut pour lui, il le dira plus tard, un véritable martyr. Et au bout de 2 mois, l'accusatrice, prise de remords, avoua son mensonge. Cette nouvelle remplit de joie Saint Alphonse, qui se hâta de s'excuser auprès de Saint Gérard et lui demanda pourquoi il ne s'était pas défendu. Mon père, lui dit-il, la règle ne nous défend-elle pas de nous excuser? Et Saint Alphonse dira, si Gérard avait eu d'autres vertus que celle-ci, ce serait assez pour donner de lui l'idée d'un saint. Mais délivrez-nous du mal. Saint Thomas, dans son commentaire du Pater, dit de cette demande qu'elle est générale, c'est-à-dire elle est relative à tous les maux. Le mal, tout d'abord, le mal avec un grand M, c'est le péché. Le péché et son père, c'est-à-dire le diable. Le diable qu'il ne faut pas mettre aux oubliettes, car il est... Je disais tout à l'heure que notre grand ennemi c'est nous-mêmes, et c'est vrai que le diable est bien présent dans notre vie, et d'ailleurs, vous allez voir, si nous dormons parfois, lui ne dort jamais, il travaille tout le temps. Il ne faut pas le voir partout, mais il existe tout de même, et il est certainement derrière plus de mauvais coups que nous ne pouvons nous l'imaginer. Il est le père du mensonge, et lui aussi a son armée de suppôts, malheureusement, et c'est pourquoi quand nous disons « délivrez-nous du mal », nous demandons à être délivrés de son influence, à être délivrés du malin. Et là, bon, bien sûr, avant d'aller nous faire exorciser, le meilleur exorcisme contre le diable, c'est bien sûr la réception des sacrements, la dévotion à la Sainte Vierge, l'humilité, et ça fait, rappelez-vous cette histoire de cette jeune fille Ars qui dansait, qui voyage un garçon charmant qui est très attirant, qui dansait avec toutes les jeunes filles possibles et imaginables, et qui, à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, finalement, choisissait une autre fille. Alors, elle était un petit peu vexée. Et puis, voilà. Et puis, elle a vu les petites étincelles sous ses pieds. Elle est partie se confesser au Saint-Curé d'Ars. Il n'aimait pas tellement les soirées au Saint-Curé d'Ars. Mais il avait raison. Donc elle est partie se confesser au Saint-Curé d'Ars, qui refusait l'absolution. Si pas les soirées, c'était des balles. Et donc, qui lui a dit, cette personne, c'était le diable. Et en fait, comme vous portez une médaille de la Sainte Vierge, il ne pouvait pas trop vous approcher. famille. Donc, les meilleurs exercices, c'est la dévotion à la Sainte Vierge, le sacrement, etc. L'humilité également. Le diable est une boule d'orgueil. Et c'est pourquoi le cri de Saint Michel, qui est comme Dieu, le terrasse. Un jour, Saint Macaire d'Alexandrie vit un démon avec une faux se précipiter sur lui. Mais Dieu le protégea et il entendit le démon lui dire: « Ô Macaire, ce n'est pas par tes jeûnes que tu te manges de moi, car tu manges quelquefois et moi je ne mange jamais. Ce n'est pas par tes veilles, car tu dors quelquefois et moi je ne prends jamais aucun repos. Mais c'est par ton humilité. Car s'humilier, ça, le démon ne sait pas le faire. Délivrez-nous du mal, délivrez-nous du malin, délivrez-nous du péché. Nous sommes, nous pouvons être, esclaves du péché. Demandez à l'alcoolique qui s'enivre régulièrement s'il n'est pas un esclave. Et c'est également vrai, c'est clair pour l'alcoolique, mais c'est également vrai pour les péchés plus petits. Plus petits, mais qui nous tiennent pourtant, et dans lesquels nous retombons si souvent. Un péché qui nous rend facilement esclaves également, c'est le péché lié à la chair. Pensons pour tant de jeunes gens, de gens moins jeunes aussi, à la chaîne du vice qui les tient enchaînés dans une prison, pour reprendre les termes de Pie XII, dans une prison aux parois dorées. Vous voyez, tous ceux qui sont des addicts, des esclaves de toute la pornographie, etc. Et il y a une grâce vraiment particulière pour rompre avec une habitude vicieuse telle que celle-ci. Le vénérable Matt Talbot, irlandais au milieu du XIXe siècle, était tombé dans l'alcoolisme adolescent. Il avait dû travailler à 12 ans dans une fabrique de bière, et là, ses mauvais amis vont l'initier au whisky. Et cela va durer des années durant lesquelles il continuera à aller à la messe sans communier. Mais s'il continuait d'aller à la messe, il s'enivrait très, très, très régulièrement. Et un jour, il est complètement fauché. Il espère se faire inviter par des ouvriers à qui il a très souvent payé un verre ou plus. Il n'est pas invité. Et il en est extrêmement meurtri dans son orgueil, dépité. C'est une véritable grâce pour lui. Il prend conscience de sa déchéance et de la peine qu'il a causée aussi, en particulier à sa mère. Et il fait vœu d'arrêter de boire. Alors, sur les conseils d'un prêtre, il va commencer à faire son premier vœu pour 3 mois seulement. Puis il va le renouveler. Il le renouvelle pour 6 mois et finalement il ne boira plus jamais après des luttes et des tentations terribles. Certains jours, il s'accrochait à la rampe d'escalier pour ne pas aller, pour ne pas retourner dans les lieux où il buvait auparavant. Et sa force sera la messe et la prière quotidienne. Et il vivra le reste de sa vie comme un véritable saint. Délivrez-nous du mal, c'est aussi délivrez-nous des épreuves terribles, Seigneur, c'est-à-dire ayez pitié de nous. C'est la grande prière chrétienne, si chère à la liturgie orientale. Les tentations sont bonnes, profitables. Nous pouvons grandir à travers les tentations, mais elles peuvent malheureusement être aussi une occasion de perte. Le bon larron s'est sauvé sur la croix, le mauvais s'est perdu. Et donc nous pouvons demander la délivrance de nos tentations ou de nos afflictions en tant qu'elles peuvent devenir une occasion de mal pour nous. Délivrez-nous du mal des tentations en tant qu'elles sont dangereuses. Délivrez-nous de telle ou telle épreuve. On peut encore entendre par mal les souffrances personnelles, la maladie, les infirmités, la perte de nos moyens d'existence, les cataclysmes, etc., tout ce que permet le bon Dieu. Mais que parfois il voudrait bien noter si nous l'ignorons. Dans l'évangile, notre Seigneur a guéri les boiteux, a guéri les paralytiques, il a rendu la vue aux aveugles, etc. Donc il est évident qu'il veut parfois nous soulager de telle ou telle chose, si nous lui demandons, ou si, parfois, comme dans l'Évangile, des proches de nous lui demandons. il y a un autre mal qui est une souffrance très grande, c'est la souffrance morale. La bienheureuse Mère Teresa disait souvent qu'il y a une pauvreté bien plus grande que la pauvreté matérielle de nos jours, c'est la pauvreté du cœur. Cette pauvreté est terrible, et beaucoup de nos contemporains aujourd'hui sont brisés au niveau de l'affectif, au niveau du cœur. Des gens qui parfois n'ont jamais été véritablement aimés, ou s'ils l'ont été, ils ne l'ont jamais su, et c'est un mal terrible, bien évidemment. Et notre rôle de chrétien, de catholique à l'état de grâce, est justement d'apporter un peu autour de nous, de rayonner cette lumière divine qui doit normalement habiter notre cœur. Je suis venu pour qu'ils aient la joie et que leur joie soit parfaite. Il y a un frère des écoles chrétiennes canadiennes qui a été béatifié il y a quelques mois. Il avait comme devise « rendre heureux pour rendre meilleur ». Et en conclusion, je vous dirais juste, aimons à dire cette prière du Notre Père. Dire le Notre Père prend seulement quelques secondes, et nous ne pouvons certainement pas penser à tant de choses que cela quand nous disons, mais c'est Notre Père, rappelons-nous, c'est la prière parfaite. C'est la prière que Jésus nous a appris. L'Église nous fait dire à la messe, au bréviaire, au baptême, à la confirmation, au rite de la communion en dehors de la messe, au mariage, à l'extrême onction. C'est la prière qui existe depuis le tout début de l'Église. Au début de l'Église, dans les premiers siècles, on ne faisait pas le signe de croix. Il n'y avait pas la récitation du Dieu vous salue Marie. On ne disait pas le chapelet. Il n'y avait pas d'exposition du Saint-Sacrement, mais il y avait le baptême. Il y avait la messe, il y avait le pater. Le pater était récité par les tout premiers chrétiens, par les apôtres eux-mêmes, et il le sera par tous les catholiques jusqu'à la fin des temps. Donc c'est cette prière qui contient tout. La prière d'un enfant à son père. Donc essayons de toujours bien la dire, c'est-à-dire pas trop vite, et avec un grand amour de Dieu notre Père. Voilà. Alors il est